On cuisine ensemble dans la vie en bleu tous les jours entre 10h et 11h. Le week-end, nous avons le best-of, le meilleur de ce que vous avez pu avoir donc la semaine précédente. Au niveau des recettes de cuisine, par exemple. Tout à l'heure, nous aurons donc le marché d'Anne-Marie Lataillade qui va vous parler de son risotto qu'elle va vous préparer. Comme ça, vous aurez des bons plans pour un risotto. On va aussi s'occuper du poulpe. Ouais. Il paraît qu'il faut bien le taper, le poulpe, un peu pour l'attendrir. Mais tout d'abord, avec Xavier Simon, on va vous parler des jus de fruits.
Mon invité aujourd'hui, Margot Le Thor. Bonjour Margot.
Bonjour Xavier.
Margot Le Thor, vous êtes diététicienne et vous êtes blogueuse culinaire. Vous avez un site internet, recettes avec un S, 100, c'est le chiffre, et fin.fr, recettes sans fin, tout attaché.fr. On peut avoir des infos sur vous et sur ce que vous faites. Mais je ne vais pas me servir d'internet, je vais me servir de vous puisque vous êtes invitée, Margot Le Thor, diététicienne et blogueuse culinaire. Alors, vous êtes venue dans la vie en bleu aujourd'hui pour nous parler des jus de fruits. Vous allez nous donner des recettes, comment on peut créer son jus de fruits ou son smoothie, par exemple, nous parler des ingrédients et du matériel. Mais dans un premier temps, on va faire un point sur comment on choisit le jus de fruits. Alors, si on n'a pas envie de se prendre la tête et faire son jus de fruits, alors j'imagine que le faire, c'est mieux. Ça, vous allez nous le dire. Je fais confiance à la diététicienne que vous êtes, Margot Le Thor. Mais si j'ai envie d'acheter du jus de fruits, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à acheter du jus de fruits, je fais attention à quoi ? Qu'est-ce que je regarde sur les emballages des jus de fruits, Margot ?
Eh bien, quand on va acheter un jus de fruits, parce que c'est vrai que c'est un peu la boisson phare de l'été, on a un choix varié, c'est rafraîchissant.
Ah non, mais c'est énorme. Hein. Le rayon jus de fruits dans les magasins, c'est
il y a énormément de choix. Ouais. Mais encore faut-il, comme vous l'avez dit, bien choisir son jus de fruits, mais surtout gérer la portion consommée. Donc, quand on va acheter un jus de fruits industriel, il est primordial de choisir un jus de fruits où c'est marqué 100% pur jus ou bien 100% fruits pressés. Pourquoi ? Parce que avec cette dénomination, vous n'allez avoir que des fruits, que des légumes. C'est-à-dire qu'il n'y aura que du sucre naturellement présent.
Donc, on se méfie des jus de fruits où il y a marqué à base de jus de fruits ?
Voilà. Quand c'est marqué à base de jus, 100% fruits, 100% jus, nectar, concentré, et bien en fait vous allez avoir des fruits et des légumes en plus petite quantité et beaucoup d'eau sucrée que l'on ajoute. Donc on va avoir du sucre qui est ajouté et non du sucre naturellement présent. Donc d'accord, il faut faire attention à bien regarder l'emballage parce que ça peut être très trompeur. Après, une fois qu'on a trouvé notre jus de fruits préféré qui est 100% pur jus ou 100% fruits pressés, pour les prochaines fois quand on ira faire les courses, on saura que c'est celui-là.
Donc il y a des pièges quand on achète un jus de fruits. Donc il faut lire l'étiquette tout simplement.
Il faut lire l'étiquette, voilà. Pour beaucoup de produits, ça peut être intéressant, mais encore une fois, on regarde les étiquettes une fois et par la suite, on saura que tel jus de fruits est 100% pur jus et du coup, je partirai sur celui-là.
Le principal piège des jus de fruits industriels, c'est le sucre ajouté.
Bien, le principal piège, en fait, c'est la dénomination qu'ils vont donner. Ça va être très trompeur parce qu'il y a beaucoup d'informations riches en vitamine C, riches en fibres, 100% fruits. Et toutes ces choses-là sont faites pour tromper le consommateur. Or, le but d'un jus de fruits, c'est quand même d'avoir que des fruits, que des légumes.
D'accord. Alors, Margot Le Thor est diététicienne et blogueuse culinaire. Mais là, je m'adresse à la diététicienne. Lorsqu'on achète ce qu'on nous conseille, 5 fruits et légumes par jour, ce genre de produit, ça ne se substitue pas du tout au fait de manger des fruits et des légumes. C'est pas parce que je bois 2-3 verres de jus de fruits, même s'ils contiennent des jus de légumes, que ça se substitue à des légumes et des fruits frais.
Alors, pour moi, quand on parle de 5 fruits et légumes par jour, déjà on parle de portions et c'est surtout que c'est une recommandation. Alors, en fonction de son âge, de sa taille, de ses besoins, certaines personnes vont consommer un peu plus que 5 portions, d'autres un peu moins. Mais les fruits et légumes, le but c'est d'en consommer quelle que soit leur forme. Par contre, on ne va pas consommer que des fruits et des légumes sous forme de jus de fruits. Pourquoi ? Parce que dans les jus de fruits, on va quand même perdre les fibres et les fibres ont beaucoup d'intérêt pour, il y a le côté satiétogène, ça va nous tenir un petit peu au ventre, ça va protéger de certaines maladies cardiovasculaires par exemple. Mais pour vous donner un exemple, quand on consomme un verre de 250 ml de jus, de smoothie, ça apporte 30 g de sucre. Donc on est sur du sucre qui est naturellement présent, mais 30 grammes, c'est quand même beaucoup. Mmh. Vous savez à peu près combien ça fait de carrés de sucre, pour vous imaginer?
Une quinzaine peut-être?
Eh bien en fait, un carré de sucre, c'est 6 grammes.
Ah oui, oui.
Voilà,
oui,
donc on a 5 carrés de sucre.
Ah, oui, je crois que c'était 2 grammes moins un carré de sucre.
Voilà. Eh bien non, c'est un peu plus. Okay. Donc on a 5 carrés de sucre dans un verre de 250 ml de jus de fruits.
C'est énorme.
Pour vous donner un autre exemple, un verre de 250 ml de Coca-Cola, c'est 26 grammes de sucre. Donc pour la même quantité, on a presque autant de sucre dans l'un que dans l'autre.
Ah ouais.
Par contre, dans le Coca, on est sur du sucre ajouté. Dans le jus de fruits, dans le smoothie, si c'est du 100% pur jus, on est sur du sucre naturel. Donc quand je vous parlais de gérer la quantité, eh bien je vous conseille plutôt de prendre un verre de 100 à 150 ml de jus de fruits, parce qu'on est sur du sucre naturel, mais on gère quand même la quantité de sucre ajouté.
Donc
la quantité de sucre présent dans le jus.
Donc ça, c'est la portion de jus de fruits que l'on peut consommer, que vous conseillez de consommer
voilà.
Chaque jour. C'est-à-dire un verre de...
Un verre de 150 ml maximum. Une seule fois dans la journée, c'est déjà bien.
D'accord.
Et après, ça peut être des fruits et des légumes sous forme de soupe, de tarte, de compote, des fruits et des légumes entiers.
D'accord.
Cru ou cuit.
Ce verre de jus de fruits, plutôt conseillé au petit déjeuner, parce que au petit déjeuner, on a toute la journée, c'est dans une perspective de brûler un maximum de calories. Alors que le jus de fruits du soir, on va se coucher, par exemple.
Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part sur un jus de fruits, la texture liquide va faire que l'index glycémique est plus élevé. C'est-à-dire que quand on le boit, notre taux de sucre dans le sang, il augmente très haut et après, il chute. Donc, quand on boit un jus de fruits, concrètement, ça ne tient pas longtemps au ventre, à l'inverse d'un fruit entier, et ça risque de nous donner encore plus faim. Donc, au petit déjeuner, si les personnes aiment bien avoir un petit déjeuner consistant et risquent d'avoir faim vers 10 heures, mieux vaut un fruit entier plutôt qu'un jus de fruits.
D'accord. Dans quelques minutes, on passera à comment on crée son jus de fruits ou son smoothie. Vous allez nous parler des ingrédients, du matériel qu'il faut. Vous avez des recettes à nous proposer. Et pour terminer avec ces jus de fruits qu'on peut acheter, qu'on trouve dans les magasins, jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de pomme, j'en passe des meilleurs. Peu importe, ou il y en a quand même qui sont meilleurs ou moins mauvais les uns que les autres.
Alors, vous allez avoir certains jus qui sont plus sucrés, comme par exemple le jus de raisin, le jus de pomme. Après, moi, je conseille toujours de varier les jus de fruits, parce que plus on varie l'alimentation, plus on a de chances de mieux manger et de conserver le côté plaisir. Quand on boit, quand on mange toujours la même chose, c'est un peu plus lassant. Donc, varier au maximum les jus de fruits pour le côté plaisir. Et aussi pour limiter, éviter les jus de fruits trop sucrés, voilà, alterner.
Mais oui, on va continuer à se mettre au jus dans la vie en bleu. On cuisine toujours ensemble ces jus de fruits avec Xavier Simon d'ici quelques minutes.
Thank you.
l'oncle Saoul. Sur France Bleu Loire-Océan, c'est la vie en bleu qui continue. On cuisine ensemble ce matin des jus de fruits. C'est le best-of du week-end avec Xavier Simon.
Je suis en compagnie de Margot Letor, qui est diététicienne et blogueuse culinaire. On fait un point complet sur les jus de fruits. Un point complet vient d'être fait sur les jus de fruits que vous pouvez acheter dans les magasins. Donc attention, ça contient quand même pas mal de sucre. Il faut gérer sa consommation, 150 ml par jour, Margot, si j'ai
bien
écouté.
Tout à fait. Et puis quand vous en achetez en grande surface, veillez à bien prendre un 100% pur jus ou 100% fruits pressés. Comme ça, le sucre sera naturellement présent et non ajouté.
Et j'imagine que l'idéal, c'est de faire son propre jus de fruits ou voir son smoothie. C'est ce que vous allez nous conseiller. On va commencer par le matériel pour faire du smoothie, jus de fruits. Qu'est-ce que vous conseillez comme matériel?
Alors, au niveau du matériel, ce qui va jouer, c'est tout de même le budget. Mais ce qui peut être facilement accessible, c'est d'avoir soit un blender, soit un mixeur plongeant ou bien un robot mixeur. Ça va vous permettre de faire vos smoothies facilement. Si vous avez un budget un peu plus élevé, vous pouvez partir sur un extracteur de jus ou une centrifugeuse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la différence, c'est que la centrifugeuse, par la force centrifuge, va broyer très rapidement vos fruits et vos légumes. Mais du coup, comme ça va chauffer un peu les fruits et les légumes, on va perdre un peu les bienfaits nutritionnels. L'extracteur de jus, il va presser à froid. Donc, on va préserver tous les bienfaits nutritionnels des fruits et des légumes. Donc, dans l'idéal, je vous conseille un extracteur de jus, mais en fonction de votre budget, si déjà vous faites vos jus maison, c'est déjà très bien. Donc, un mixeur plongeant, un blender, c'est l'idéal.
Sinon, un peu d'huile de coude, hein, vous prenez une orange, vous la coupez en deux, vous prenez un vieux presse-agrumes le traditionnel,
tout
vous pressez
fait.
Votre orange, vous le versez dans un verre, voilà. Et vous consommez. Ça, c'est idéal.
Oui, mais j'ai des recettes de smoothies qui sont un peu plus originales. Oui,
d'accord, mais je sais bien, Margot, mais la diététicienne que vous êtes ne peut pas me dire le contraire, j'imagine.
Non, je suis d'accord, une orange pressée, c'est pas mal, c'est aussi, ouais, et puis on est vraiment sur une saveur qui est toute complètement différente par rapport au jus industriel, je trouve. Mais après, quand on fait maison, on choisit les ingrédients, on gère les quantités et puis aussi le plaisir de consommer ce qu'on a cuisiné.
D'accord. Revenons à vos smoothies. Donc, on a fait le point sur le matériel, les ingrédients. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour faire des smoothies? Un tas de choses différentes, j'imagine.
Alors, les smoothies, on met un petit peu ce qu'on veut. Après, il faut faire attention quand même au niveau des dosages. Mais dans tous les cas, vous pouvez utiliser des fruits ou des légumes, qu'ils soient frais, en conserve ou surgelés. Moi, je sais que j'utilise beaucoup des fraises ou des framboises surgelées parce que c'est pratique, c'est moins cher. Par exemple. Mais sinon, c'est vrai que les fruits frais, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Jouer sur les herbes aromatiques, alors tout ce qui est menthe fraîche ou basilic frais, c'est un délice dans les smoothies. Ça va vraiment les parfumer. Ça va vraiment donner un excellent goût. Et ensuite, il faut quand même avoir un peu de liquide pour pouvoir bien lier votre smoothie. Alors, justement, reprenons l'exemple de l'orange pressée. Vous pouvez presser des agrumes, orange, pamplemousse, citron vert, citron jaune. Vous pouvez mettre de l'eau simplement, après je trouve ça un petit peu dommage, partez plutôt sur de l'eau de coco ou du lait de coco. Donc voilà, on a des exemples de liquides qui vont lier votre smoothie. Et par exemple, moi, mon smoothie préféré du moment, c'est un smoothie melon, abricot, menthe et citron vert. C'est vraiment un pur délice.
D'accord, ça fait partie des recettes que vous proposez, qu'on peut retrouver, j'imagine, sur votre site internet.
Tout à fait, d'accord. Cette recette est disponible, j'ai créé dernièrement, et il y a beaucoup d'autres recettes de smoothie, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.
Ça prend combien de temps de faire un smoothie? Smoothie, c'est vite fait en fait.
Alors pendant ce smoothie, je dirais le temps de sortir les ingrédients, les laver, peut-être 5 petites minutes, et le temps de tout mixer et de servir 5 minutes également.
D'accord.
Après, je vous conseille tout de même de laisser reposer au frigo votre smoothie, parce que s'il est consommé frais, il sera beaucoup plus savoureux. Par contre, petite astuce, si vous utilisez des fruits surgelés, comme je vous disais, les fruits rouges par exemple, eh bien ça va tout de suite refroidir votre smoothie et il peut être prêt à consommer.
D'accord. Ah oui, utiliser la surgélation, oui.
Des
fruits pour avoir quelque chose de frais. Donc, vous nous avez donné une petite recette, là,
oui.
Mais un peu rapide. Est-ce que vous pouvez nous détailler?
Je vais la détailler.
Allez, détaillez votre recette. Là,
donc, c'est un peu
content de ce smoothie, quand même.
Donc, c'est un peu ma recette préférée du moment. Je trouve ça un peu original. Donc, dans mon smoothie, je mets autant de melon que d'abricot. Donc, pour vous donner un exemple, pour un demi-litre de smoothie, je mets un demi-melon, à peu près, ce qui fait 200 grammes. Je mets la même quantité en grammage d'abricots frais. Mmh. Voilà. Je vais presser des oranges, un peu de citron vert, parce que la pointe de citron vert est vraiment délicieuse. Et je vais mettre de l'amande fraîche. Je vais mixer le tout et je vais vraiment avoir un smoothie qui est onctueux grâce aux abricots, qui est un petit peu sucré grâce au melon et très parfumé avec la menthe.
D'accord. Et là, vous avez mis tout ça dans un mixeur.
Oui, alors moi, je vous avoue que j'ai un robot mixeur, mais si vous avez, comme je vous disais, un mixeur plongeant, un blender, ça marche aussi très bien.
D'accord. J'étais en train de réfléchir ce que c'était qu'un mixeur plongeant, mais je crois que je viens de comprendre. C'est celui qu'on attrape avec la main et qu'on plonge dans un récipient.
Voilà, le c'est mixeur ça. Plongeant, en fait, vous avez un grand manche et oui. Puis au okay. Bout, vous avez voilà, la petite lame.
Je vous écoutais tout à l'heure, je me suis dit, mais de quoi elle parle Margot Le Thor avec son mixeur plongeant? Mais voilà, je viens d'avoir l'image. Donc ça, c'est votre smoothie préféré du
voilà,
moment.
Voilà, mais il y a plein d'autres idées.
Ouais, il nous reste une ou deux minutes, Margot.
Alors, j'ai une autre
recette.
Une autre recette que j'apprécie beaucoup énormément.
On contente cela pendant l'été, là.
Alors, je vous conseille la recette de smoothie pastèque et framboise, avec de la menthe, bien sûr, que vous pouvez retrouver également sur mon blog. Donc, j'utilise la pastèque qui est un fruit très aqueux. Donc, ça va permettre de libérer de l'eau et donc de lier mon smoothie. Et j'utilise soit des framboises, soit des fraises surgelée ou fraîche. Vous pouvez aussi faire un mélange des deux. Donc je mets de la pastèque, des fruits rouges, de la menthe, une petite pointe de citron si vous le souhaitez, et celle-ci est vraiment délicieuse. Je m'en fais aussi beaucoup également.
D'accord, c'est pareil avec au robot mixeur, toujours.
Voilà, au robot mixeur, au blender, au mixeur plongeant, en fonction de ce que vous avez chez
vous. Est-ce que vous avez une dernière recette à nous proposer?
Oui, j'en ai un également. Plutôt, on part sur des fruits jaunes, donc un smoothie avec de la mangue, de l'ananas et encore une fois une pointe de citron vert. Donc la mangue va donner beaucoup d'onctuosité. L'ananas, le côté un petit peu fibreux, mais l'ananas se marie très très bien avec la mangue. Voilà, encore une fois, vous avez beaucoup plus de recettes de smoothies et bien d'autres sur mon blog.
Le blog de Margot Le Thor, donc diététicienne, qui fait des bons smoothies, c'est ce qu'a raconté à Xavier Simon. Xavier Simon qui va nous faire découvrir le poulpe, un bon produit à travailler pendant l'été, tout à l'heure, toujours dans La Vie en Bleu, puis on aura aussi une belle recette de risotto.
Somewhere.
Mylène Farmer, sans contrefaçon, dans les années 80 sur France Bleu Loire-Océan. À suivre, donc, c'est La Vie en Bleu, avec donc des recettes de cuisine. On va vous parler du poulpe, juste après le point circulation.
Jean-Jacques Lester, La Vie en Bleu. Sur France Bleu Loire-Océan, cet été, la chasse au trésor. À l'occasion de la grande exposition du château de Châteaubriant, Loire-Atlantique, terre des trésors, découvrez 16 trésors emblématiques du département. Des histoires souvent insolites, racontées par Gilles Dassalin et Jean-Jacques Lester, samedi et dimanche à 7h45 et 18h45.
Excusez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande juste 10 secondes. 10 secondes. Voilà, merci. Donc, juste pour vous dire que même pendant l'été, les déchetteries restent ouvertes. Donc, aucune inquiétude sur le bon recyclage de vos appareils électriques. Voilà. Voilà, bah, merci pour votre attention. Vous pouvez recommencer à...
Cet été, libérez-vous l'esprit. Faites le vide dans vos placards, caves et greniers en recyclant vos appareils électriques hors d'usage. Toutes les solutions de recyclage sur écosystème.fr. Quai de la Fosse, à 30 mots, de belle vue au stade Marcel Saupin.
France Bleu Loire-Océan, on est bien ensemble.
France Bleu Loire-Océan, fait la route ensemble avec vos infos 02 40 73 6000. La journée classée orange par Buisson Futé dans le sens des départs. Actuellement, vous avez des ralentissements sur la route de Pornic à partir de Bueil, donc sur plusieurs kilomètres jusqu'à Saint-Léger-les-Vignes. Il y a également des problèmes de circulation qui sont apparus sur le périphérique nantais, sur le périphérique sud, au niveau de la porte des Sorinières. Ça va de la porte de Vertu jusqu'à la porte des Sorinières, ou alors de la porte de Rezé jusqu'à la porte des Sorinières. Et vous avez aussi une circulation dense au nord du périphérique, de la porte de Rennes en direction de la porte d'Orvault.
On fait la route ensemble avec Planète Sauvage, le safari park près de Nantes. Sortez des sentiers battus. www.planetesauvage.com.
Avant de vous parler du poulpe avec un producteur local, voici le marché d'Anne Lataillade. Elle va vous donner une recette de risotto.
Le risotto est un plat qui vient d'Italie du Nord, là où on cultive du riz dans la plaine du Pô, et on va utiliser un riz qui s'appelle arborio ou carnaroli pour le préparer. On trouve ces riz en grande surface. Si jamais vous n'en trouvez pas par hasard, achetez un riz spécial risotto, là vous ne pouvez pas vous rater. Pour préparer un risotto, il va vous falloir deux récipients. Un, on va utiliser par exemple une sauteuse, on va faire cuire le riz dedans, et l'autre, une casserole dans laquelle on va mettre le bouillon qui va servir à mouiller le riz. Parce que le principe de cuisson du risotto, c'est de mouiller le riz petit à petit. On compte 250 g à 300 g de risotto pour 4 personnes. Le principe de cuisson du risotto, ça ressemble un peu au riz pilaf, c'est-à-dire qu'on va d'abord cuire le riz dans une matière grasse pendant 2 à 3 minutes, il doit devenir nacré, presque blanc, et après on va ajouter 100 ml de vin blanc, ça c'est important. Une fois que le vin blanc est évaporé, on va mouiller le riz avec un bouillon. Le bouillon, vous pouvez utiliser bien sûr un bouillon de volaille, de légumes ou de crevettes, selon le risotto que vous allez faire. Vous faites chauffer votre bouillon et vous allez le mettre chaud dans le riz, louche par louche. C'est ça le secret d'un bon risotto, c'est-à-dire qu'il faut attendre que le riz ait absorbé une louche de bouillon avant d'en rajouter une autre. Donc c'est un plat, il faut rester devant sa casserole. On ne peut pas aller regarder la télé, non, on est là, on surveille. Et quand le bouillon est absorbé, on remet une autre louche. Il faut compter à peu près pour les riz dont je vous ai parlé avant, le carnaroli, l'arborio, environ 18 minutes de cuisson. Au bout de ce temps-là, notre riz, il est cuit et on va ajouter un petit peu de fromage. Habituellement, on met du parmesan. On va compter 4 cuillères à soupe à peu près. Et puis là, on peut ajouter des garnitures. Donc, suivant ce qu'on aime ou le bouillon utilisé, si c'est légumes, volailles ou poissons, on va mettre eh bien, des légumes, de la volaille ou des crevettes, par exemple. Vous les faites cuire à côté, vous les ajoutez dans votre risotto et c'est absolument délicieux. Ce que j'aime beaucoup dans le risotto, c'est que c'est quelque chose qui est pratique pour terminer les restes que l'on a dans le frigo. Si vous avez un petit bol de légumes, je ne sais pas, de courgettes, de poireaux dans votre réfrigérateur, incorporez-les tout simplement en fin de cuisson au risotto. Et là, pas de gaspillage, rien ne se perd, tout se transforme.
Le marché d'Anne Lataillade, à podcaster sur francebleu.fr.
Un bon rendez-vous hein, pour avoir des recettes faciles. Nous allons faire un tour du côté de Noirmoutier d'ici moins d'une dizaine de minutes, cette fois-ci pour aller à la rencontre de Lulu Lamoule, le poissonnier de Noirmoutier, qui va vous parler du poulpe.
C'est l'été. Où que vous soyez, il y a forcément une France Bleue pour vous. France Bleue, la playlist de votre été. France Bleue.
taking your money. Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun.
Nous étions jeunes et larges des peaux. On attendait que la mort nous faut. Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again, again. Amis, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours. Tu partiras encore plus loin.
Lavilliers, qui était la semaine dernière, pile une semaine, dimanche dernier, aux escales de Saint-Nazaire. Sur France Bleu, Loire-Océan, donc on cuisine dans la vie en bleu. Nous allons du côté de Noirmoutier, à la poissonnerie Lulu Lamoule, avec Xavier Simon pour vous parler du poulpe. Hein.
France Bleu, Loire-Océan,
la vie en bleu,
c'est bleu.
Jean-Jacques Lester.
Cet été sur France Bleu Loire Océan, on vous emmène dans les coulisses des plus grands parcs de loisirs et d'attractions de notre région. Cette semaine, direction Noirmoutier pour découvrir le parc aquatique Océanil et l'aquarium Sealand et ses 500 animaux marins. L'envers du décor, c'est à 7h15 et 15h15.
Aliénor d'Aquitaine, j'accorde dans cet an de grâce 1141 le statut de royal à l'abbaye de Nieul-sur-Lotise.
Majesté, c'est trop d'honneur.
L'abbaye de Nieul-sur-Lotise, l'une des plus belles abbayes romanes de l'ouest de la France, avec un parcours muséographique sur la sculpture romane, des écrans tactiles pour revivre la vie monastique au XIIe siècle, et tout l'été, deux grands spectacles dans les pas d'Aliénor et le fabuleux bestiaire imaginaire.
Abbaye de Nieul-sur-Lotise, un site culturel du département de la Vendée.
Retrouvez toutes les infos sur siteculturel.vendée.fr.
Bonjour Fabien Gabory.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio France Loire Océan. On vous retrouve.
Moi aussi. Fabien Gabory, Lulu Lamoule, la maison du poisson, c'est à Noirmoutier, 22 Grande Rue, à Noirmoutier en Lille, pour être précis. J'ai pas raconté de bêtises, Fabien.
Bon, c'est tout à fait ça, voilà.
Alors, de succulents poissons, de magnifiques crustacés, mais aujourd'hui, vous avez décidé de nous proposer un coup de projecteur sur le poulpe.
Oui, absolument, parce que c'est un poisson emblématique de la Méditerranée, hein, que tout le monde connaît, et donc très très cuisiné tout autour de la Méditerranée, que ce soit dans le Maghreb, en Italie, en Espagne. Et depuis quelques années, certainement lié un petit peu à ce qu'on appelle le warming, ce réchauffement climatique, qu'on sent bien présent depuis quelques jours d'ailleurs. Donc l'eau de Noirmoutier s'étant réchauffée de quelques degrés depuis quelques années, au fur et à mesure de ce warming, eh bien maintenant on a une population de poulpes qui était déjà présente, mais là qui a l'air de prospérer. Et donc ça fait quelques années qu'on a une apparence incroyable et qu'on en pêche beaucoup.
D'accord.
On est un petit peu voilà, c'est un peu nouveau et donc on est en train de se réattribuer la façon de cuisiner cette bête à la méditerranéenne et on est en train de reprendre les codes méditerranéens pour ce poisson qui est maintenant présent sur nos côtes.
Donc ça veut dire Fabien, qualité. Ça veut dire Fabien que sur votre étal à Lulu Lamoule, la maison du poisson à Noirmoutier, vous avez du poulpe donc.
Absolument.
Du poulpe du poulpe de Noirmoutier donc.
C'est du poulpe de Noirmoutier, okay. Donc pêché dans les casiers à crustacés, parce que le poulpe a la particularité de se nourrir de crabes et d'araignées, beaucoup. Et donc, on met nos casiers, nos pièges pour homards, araignées et crabes. Et le poulpe est alléché par cette pêche-là et vient essayer d'avoir des proies faciles, parce qu'elles sont déjà emprisonnées dans le casier, donc on les pêche dans nos casiers.
D'accord.
Et des fois, même simplement, ils sont juste lovés dessus, ils essayent de rentrer, et donc on les récupère comme ça. Et donc, on les ramène à terre, et là, ils sont vendus en frais sur nos étals,
ouais.
Ou alors, on les on les cuit dans un four à vapeur et après on les met en petits morceaux et on les vend en marinade à la Méditerranée, c'est-à-dire avec une petite huile d'olive et un petit peu de vinaigre blanc, un peu d'ail et de persil, et là tout est prêt pour l'apéro.
D'accord, donc là on peut les acheter tout prêts, mais si on l'achète frais, cru, se prépare le poulpe?
Voilà, alors la cuisson du poulpe est un peu particulière. Il faut savoir qu'il faut absolument l'attendrir. Donc déjà, ça commence, vous demandez à votre poissonnier qui vous le prépare, il faut le vider. Hein, donc on enlève tout ce qui est bec, les yeux et la tête. Et après, nous le tapons. Donc la coutume et la légende un peu portugaise, qui est un des pays où on travaille le plus le poulpe, est de le taper 7 fois. Hein, voilà, chiffre symbolique. Donc une fois qu'il est tapé 7 fois, vous préparez un gros courbouillon avec, on met un gros oignon dessus dans le plat, on met un petit peu d'épices autour, on sale un petit peu son eau, et là encore une fois que le goût, vous prenez votre poulpe par la tête et vous le trempez 7 fois en le sortant au fur et à mesure de l'eau. Donc c'est-à-dire vous le trempez, vous le ressortez, mais on fait ça 7 fois aussi. Donc pourquoi on le fait, c'est la tradition. Et après on laisse le poulpe cuire jusqu'à temps que l'oignon ait perdu, se soit ouvert et soit tout à fait confit dans le jus de bouillon. Et ça met environ 1h30 à 1h40, un petit peu près, pour avoir fait l'expérience plusieurs fois.
D'accord. Et là, le poulpe est prêt.
Alors, le poulpe n'est pas encore tout à fait prêt. Après, on l'égoutte de ce bouillon-là et on le remet au frais pour qu'il se regélifie. Parce autrement, il est tout mou. D'accord. Et donc là, on le remet au réfrigérateur où vous le laissez reposer un petit moment. Et là, il va se regélifier. Et après, là, on peut le couper et on mange tout. Hein. On garde la peau, tout est prêt à ce moment-là et on coupe ça en petits morceaux. Et donc, après, 2 solutions. Soit vous gardez les tentacules entières, on les remet au barbecue, on les fait griller, voire à la plancha. Ou soit vous le coupez en petits morceaux et là, vous le refaites revenir à la poêle dans l'huile d'olive, ail, persil, ce qu'on appelle le poulpe à la gallega. Et là, sur des petites pommes de terre, des pâtes fraîches ou du riz, c'est un régal.
Miam. On parlait du poulpe. C'est aussi un personnage de roman policier, tiens, le poulpe. D'ailleurs, un film a été tourné à Saint-Nazaire avec Jean-Pierre Daroussin qui jouait le rôle de ce détective. Le poulpe, bon, passons là. Donc, la vie en bleu pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve demain entre 9h et 11h. Et bien sûr, on cuisinera ensemble une fois de plus entre 10h et 11h.
Juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais. Oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, par ici, on n'en voit pas la fin. Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau, pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te feraient le monde beau. Le monde beau. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi.
C'était Vanille qui chantait Suivre le soleil. L'écrivain Jean Rouault se raconte cette semaine dans Les gens d'ici avec Cathy Kerzéro. Et cet écrivain, donc, de la région nantaise s'est fait connaître en 1990 en obtenant le concours pour son premier roman, Les Champs d'honneur, qui, comme les suivants, nous a fait plonger dans son histoire familiale à Cambon, au nord-ouest de Nantes. Un véritable défi littéraire pour l'auteur.
Faire de la littérature, faire du beau, avec cette chose aussi peu excitante que cette campagne-là, pas faire de la peine à l'heure atlantique, mais enfin, c'est pas les Cévennes, c'est pas le Périgord, c'est les bocages, c'est donc côté basique de la campagne. Vous voyez, par exemple, il y avait deux fermes dans le bourg de Cambon quand j'étais enfant. Et donc, on allait chercher du lait à la ferme, mais il fallait pas faire 3 kilomètres. Pour la première, elle était derrière l'église, après elle a fermé, mais Céline qui disait, chanter Beson, voici l'épreuve. Moi, c'était chanter Cambon, voici l'épreuve.
Avec un homme qui a compté, quand même, Jérôme Lindon, parce que vous dites, à partir de 78, vous commencez à échafauder un roman, un premier roman qui ne va pas être reconnu, qui ne va pas être publié.
Et après, je commence là, véritablement, ce qui va être le projet des Champs d'honneur, et j'envoie un petit texte à Lindon, qui me convoque. Il écrit une lettre, il me dit... il y a là l'amorce d'une œuvre forte, mais je ne peux pas publier ça parce que c'est trop mince. Et donc, il me convoque. Et il va me... c'était quelqu'un de très impressionnant, qui était adossé à une histoire doublement prestigieuse, parce que donc c'était l'édition de Minuit, donc avec La Guerre, Vercors, et puis après, Beckett, le nouveau roman, Claude Simon...
Duras,
Robrier et compagnie. Et aussi, lui, qui était rentré à 15 ans dans la résistance parce qu'il était juif, il était dans les scouts juifs. Par exemple, on oublie, mais quand il prend l'édition de Minuit à Vercors, il a 22 ans. Vous imaginez, à 22 ans, on ne vous propose même pas un stage aujourd'hui. Mais il n'a pas 22 ans. Il a 4 années de guerre derrière lui.
Et quand il vous convoque, il vous donne enfin la légitimité. C'est comme ça que vous le recevez.
C'est exactement comme ça. Et c'était très véhément. Et c'était pour m'engueuler parce qu'il y avait plein de scories de la modernité littéraire. Je voulais montrer que j'étais moderne, etc. Il me dit, non, vous racontez votre histoire, vous en faites un roman, et voilà. C'est lui qui me demandait ça, de raconter mes histoires de l'heure inférieure.
Ça semblait paradoxal, en fait, quoi.
Ah oui, absolument. Ouais. Et d'ailleurs...